Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Il est 6h08 et effectivement, peut-être qu'on a les yeux un peu rouges, peut-être que forcément on aurait préféré dormir quelques heures supplémentaires. C'est votre cas ou pas, vous qui nous écoutez? Non, bah peut-être que vous êtes réveillés naturellement comme ça. On salue tous ceux qui sont au travail en ce samedi 26 septembre. Je suis très heureux de vous retrouver. On va passer cette matinée ensemble. 6-10, le week-end des experts, bien sûr. Demain, dimanche, de quoi je me mêle, 6-7. Et puis, 7h-10h, ce sera 3 heures d'auto avec Jean-Luc Moreau, bien entendu. Au menu de ces 4 heures en ce samedi, tout à l'heure, gros dossier. On évoquera la 5G avec Raphaël Grably. Est-ce qu'elle va révolutionner notre quotidien? Et puis, faut-il tordre le cou aux idées reçues qu'il y a actuellement concernant l'aspect sanitaire de la 5G? On aura véritablement les bons porte-parole tout à l'heure et bien sûr toutes vos questions. 8h-9h, ce sera la forme et la santé avec le docteur Christian Riquier. On évoquera la fermeture des salles de sport à cause de la Covid. Comment rester en forme si on ne peut plus aller dans les salles de sport? Tiens, quelles sont les astuces, les moyens qui sont à notre disposition? Et vous verrez que si vous avez une connexion Internet, on peut presque imaginer être comme dans une salle de sport. On en parlera avec un coach qui sera avec nous. Notre rendez-vous maison avec Christian PC. Comment être bien indemnisé en cas de dégâts, tempêtes et notamment de catastrophes naturelles? C'est vrai que ces derniers temps, on a eu pas mal de tempêtes et de gros orages. Comment réagir face aux assurances, etc. On en parlera avec Christian, bien sûr, et ses invités. Et pour débuter, vous le savez, chaque samedi entre 6 et 7, c'est le jardin. Et le jardin, c'est avec Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Et si vous n'avez pas de salle de sport et que vous avez un jardin, ça fait exactement la même chose,
oui,
sachez-le.
C'est vrai. C'est vrai. D'autant qu'on va avoir pas mal de choses à faire dans le jardin, là. Avec l'automne qui arrive, il va falloir ramasser les feuilles. Moi, sur ma terrasse, ça commence à être un peu la pagaille.
Ah oui. Alors, je dirais qu'il ne faut pas trop se presser pour ça, parce que vous vouliez le faire en permanence.
Voilà,
parce que ça. Voilà, là, il n'y a qu'un tout petit peu de feuilles qui sont tombées. C'est généralement, d'ailleurs, celles qui n'ont pas trop bien supporté les grosses chaleurs de l'été.
Mon petit érable du Japon, là, il commence un petit peu à se déshabiller.
Il n'est pas coloré?
Ah, il commence, mais il y a
mais
aussi
temps, il y a des feuilles qui tombent.
Ouais, c'est clair.
Ça, bon, on est passé, on les a tout à l'heure avec François quand on est arrivé dans le studio, bizarrement quand même, hein, de l'été à l'automne en quelques heures.
Mais oui.
Vraiment, et là on est plongé dans l'automne, 9 degrés ce matin en partant du jardin. En dessous de 10 degrés, il faut savoir que beaucoup de plantes sont bloquées dans leur croissance. Donc on a quand même cette fraîcheur, et heureusement, on a cette humidité qui est revenue parce qu'on en avait quand même sérieusement besoin.
Alors, Patrick, on sait que vous ne faites qu'un avec Nicole, votre moitié, depuis de nombreuses années.
Oui.
Pour les plantes, c'est à peu près la même chose. Il y a des plantes qui s'entendent bien, ce sont les plantes compagnes.
Alors, les plantes compagnes, voilà. Alors, on va parler tout à l'heure des plantes compagnes et même également aussi de ce qu'on appelle les cultures associées. C'est-à-dire quand on associe plusieurs cultures sur la même parcelle, de manière à produire de façon optimisée, bah, il vaut mieux effectivement utiliser des plantes qui s'entendent bien. Hein. C'est comme quand vous habitez un tout petit appartement, si ça ne marche pas ensemble.
Vaut mieux s'entendre bien avec le coloc.
Voilà. Ou quand vous faites des croisières. Vous voyez, par exemple, si vous partez en croisière un jour, vaut mieux que ce soit de très très bons amis.
Si un jour les croisières repartent, les amis, peut-être dans une quinzaine d'années, eh bien à ce moment-là, oui, bien sûr, choisissez votre compagnon de croisière.
Oui, c'est vrai, je n'ai pas pris la dimension.
Bref, les plantes compagnes, ce sera tout à l'heure. Vous avez des questions sur ce sujet. C'est un sujet hyper intéressant et parce que certaines plantes peuvent se protéger, se stimulent ou même, par exemple, parfois se détestent. Hein. Mais comme nous, on est intelligents, eh bien, on peut s'adapter à tout ça. Vous avez des questions sur ce sujet, 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Votre conseil aussi dans un instant, la récolte des fruits. Et puis dès maintenant, 3216, l'appli RMC, je le disais, Direct Studio, si vous voulez poser vos questions. Bienvenue dans cette heure dédiée au jardin, comme chaque samedi. Et on commence avec Nicolas qui est là. Et oui, Nicolas qui est là.
Oui,
bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour, vous allez bien?
Bienvenue Nicolas, du Puy-de-Dôme.
Ça va?
Oui, ça va bien, ça va bien. Et vous?
Ouais. Ah ouais, la température qui réveille bien, mais ça va, ça va.
Bah, c'est pour ça que vous êtes bien réveillé, dites-moi. J'ai l'impression que.
Ouais, ça va.
Ouais, bah, c'est bien. Vous travaillez ou vous êtes du matin?
Non, non, non. Alors, on va dire que je travaille à la maison, parce que quand je passe chez vous, madame est contente, comme ça je fais la vaisselle et tout le matin, elle se réveille, c'est nickel. Donc, elle aime bien quand je passe sur votre radio.
Ça, c'est chouette.
Ouais, c'est pas mal, hein. C'est, C'est une solution, c'est une technique.
Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue Nicolas, et on vous écoute. Patrick vous écoute.
Oui, je vous contacte ce jour pour avoir une petite solution concernant, on arrive à l'automne, et puis j'ai pas envie de bêcher mon potager, j'ai simplement envie d'aérer. Je suis tombé sur une de vos vidéos pour aérer le sol, j'ai acheté une biofourche, qui est un petit peu différente de ce que j'ai vu sur New Jardin, de ce que vous avez comme outil.
Oui, il y en a plein de modèles, oui.
Ouais. Celle-là un peu mieux parce qu'il y a un marche-pied en plus dessus.
Celle qu'on utilisait aussi, si j'avais un...
D'accord. J'avais pas fait attention. Et du coup, en fait, la solution que je voudrais faire derrière, c'est planter de la moutarde. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aérer le sol pour la semer? Ou est-ce qu'il faut absolument... Enfin, où est-ce que je peux la semer sans que j'ai à retourner le sol? Parce que comme je suis sur terrain argileux, je sais pas si les photos vous sont parvenues.
Non, j'ai pas vu les photos, mais peu importe. C'est pour moi, c'est trop tard, là.
D'accord.
La moutarde, enfin tous les ans, parce que ce que vous voulez faire, c'est ce qu'on appelle un engrais vert. L'engrais vert, l'idéal, c'est de le faire au moment de l'été, enfin le semis, pour pouvoir faire l'enfouissement à l'automne. Parce qu'il faut quand même un certain temps pour que la matière organique qui va se développer avec la végétation, ce qu'on appelle la biomasse, eh bien, elle puisse se décomposer et que, au moment du printemps, lorsque vous allez faire vos semis, vous ayez un sol dans lequel vous n'ayez pas de matière organique en décomposition. Parce que une matière organique en décomposition, c'est porteur potentiellement de pathogènes, notamment au niveau de certains champignons qui peuvent attaquer les racines et qui pourraient nuire considérablement à votre culture. Donc là, si vous semez maintenant, de toute façon, vous avez vu, les températures, elles ont baissé, donc vous n'aurez pas de levée tout de suite. Vous allez avoir une levée au printemps, donc vous allez décaler complètement votre culture.
Il faisait trop sec. Donc, le truc, c'est qu'avant, il faisait beaucoup trop sec.
Vous avez parfaitement raison, mais le problème, c'est que les plantes, ça ne fonctionne pas comme on a envie. Les plantes, ça fonctionne comme elles ont envie, et il leur faut des conditions particulières pour qu'elles se développent. En plus, vous êtes dans le Puy de Dôme, donc vous risquez d'avoir quand même un hiver avec des périodes froides, et ça, c'est pas non plus la meilleure chose. Non, en ce moment, l'idéal, ça serait de mettre du fumier décomposé ou du compost, alors décomposé complètement ou à demi décomposé sur le sol.
Ouais.
Alors, il y a deux techniques. Il y a celle que je préconise, qui est la bonne vieille technique traditionnelle, c'est-à-dire d'enfouissement avec un labour. Enfin, un labour. On a mis un peu au banc des accusés ou même au pilori le labour, parce qu'on a vu dans le labour ces très grosses charrues agricoles qui creusent profondément, etc. Nous, au jardin, on fait quoi ? On fait 20 cm à tout casser, c'est-à-dire qu'on se contente simplement de retourner la couche arable et on ne mélange jamais le sous-sol avec le sol. Bon, alors après, on va vous dire, oui, mais vous rendez compte ce que ça fait aux pauvres micro-organismes qui sont là-dedans. Je peux vous dire quand même que ça fait plus de 12 000 ans qu'on retourne le sol de cette planète et qu'on continue quand même à produire régulièrement et même de plus en plus de plantes alimentaires pour l'ensemble de la population qui ne fait que croître. Donc arrêtons aussi.
C'est le problème d'Internet, on ne sait plus.
Comment ?
Moi, je vous appelle. C'est le problème avec Internet, il y a de tout et de rien.
Oui.
Et à force, on ne sait plus quoi faire. C'est fou.
Non, mais bon, alors... Parce que, regardez, vous avez acheté une biofourche.
Ouais.
C'est pas un outil qui est utile pour l'enfouissement. Et notamment, imaginez, vous faites votre moutarde, vous la fauchez, et qu'est-ce que vous faites avec votre biofourche après ? Rien du tout. Vous êtes obligé de passer avec la bêche pour pouvoir retourner cette partie vivante, donc pour qu'elle puisse se décomposer, il faut qu'elle soit enfouie. Sinon, elle reste en surface et ça n'a aucun intérêt. Bon, sur le fumier lui-même, il y a une technique qui fait partie de l'ensemble de la philosophie de la permaculture qui consiste à poser simplement ce fumier sur le sol et de laisser, avec les précipitations et les vers de terre, travailler, etc. Bon, si vous avez une terre très très dure, très compacte en dessous, je peux vous dire que ça sert fichtrement à rien. Il vaut mieux d'abord avoir bien préparé cette terre-là. Alors là, vous pouvez le faire à la biofourche, et après vous posez votre fumier décomposé, Et pendant tout l'hiver, eh bien, il va s'absorber petit à petit, s'intégrer à la terre et vous apporter l'amendement dont vous avez besoin. Au printemps, il faudra faire autre chose, c'est-à-dire, n'oubliez pas que le fumier apporte essentiellement de la partie azotée, donc il faudra mettre du carton ou mettre du BRF pour avoir du carbone et pour avoir ce bon rapport carbone-azote dont on a besoin.
Merci Nicolas pour votre appel et pour votre question. Nicolas nous a appelé au 32-16. Vous avez deux moyens pour joindre Patrick Miolan, notre jardinier. Le 32-16, le standard, on vous attend bien sûr. Et vous avez aussi, si vous avez un smartphone et l'appli RMC, Direct Studio, vous posez votre question, vous l'écrivez avec votre numéro de téléphone et on peut vous rappeler dans les minutes qui viennent puisque la question s'affiche automatiquement dans nos studios. Il est temps d'en trouver le conseil maintenant de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC, l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
J'aime les fruits, j'aime les bananes, j'aime les fruits et les pommes aussi.
Et oui, Kevin qui adore les...
Ça va être compliqué. Hein.
Oui. Kevin, qui est notre réalisateur, qui adore les chansons à texte. Vous l'avez sans doute remarqué ces dernières semaines. Dernier petit chef-d'œuvre là de cet auteur. Il est temps maintenant, ben oui, puisque ça annonce quand même bien le sujet. Hein, on va parler des fruits, les conseils de récolte, comment les faire mûrir. Alors, quel fruit, tiens Patrick, pour commencer, quel fruit récolte-t-on en ce moment ?
C'est la grande période hein, quand même hein, pour tout ce qui est pomme, poire. Alors ça va aller jusqu'à la mi-octobre, voire la fin octobre, ça dépendra du climat. Bien entendu, le raisin. En ce moment, on arrive à la fin vraiment des framboises, et même des mûres et des fraises. Et puis, c'est la récolte des figues. Hein. Alors, la saison a été chaude, elle a été très favorable. Les variétés qu'on appelle bivères, c'est-à-dire celles qui produisent deux fois dans la saison, là, en ce moment, elles arrivent à maturité. Bah, côté fruits secs, bien sûr, vous avez les fruits de saison, les noisettes, châtaignes, noix. Ça se récolte les noix jusqu'en novembre. Et puis, alors attention, il y en a qui sont pas encore mûres. Hein, faut pas non plus se précipiter sur tout. Les physalis, vous savez, l'amour en cage, bah lui, il faut attendre que le calice soit vraiment bien marron et qu'il ait cette texture de papier, parce que sinon, la petite baie qu'il y a au centre, qui est orangée, elle est trop amère, trop acide, en fait. Et puis, attendez encore aussi pour les kiwis, les kakis et les nèfles. Là, il faut vraiment que la saison soit très, très avancée.
Il y a aussi donc des fruits du potager, hein, Patrick. Quels sont les légumes, fruits qui sont encore de saison?
Alors, ce que l'on appelle les cultures méditerranéennes, c'est-à-dire les tomates, les poivrons, les aubergines et les piments, eux, ils arrivent aussi un peu en fin. Mais bon, ça dépendra des régions, parce qu'il y a vraiment, la semaine nous annonce quand même une baisse sensible des températures, notamment en matinée. Mais globalement, bon, on peut encore non seulement les récolter, mais peut-être les laisser encore, on va dire, jusqu'à la mi-octobre, vous pourrez encore récolter. Après, bien entendu, vous avez tout ce qui est cucurbitacé, les courges, les potirons. Là, c'est la grande saison de ces plantes-là.
Patrick, comment savoir si, par exemple, une pomme ou une poire sont mûres?
Alors, effectivement, c'est moins facile qu'avec une cerise, une pêche ou une prune que l'on peut manger directement sur l'arbre. Là, les pommes et les poires, elles ont ce que l'on appelle la maturité physiologique, c'est-à-dire le moment où on peut les décrocher facilement de l'arbre. Sur la pomme, on fait un mouvement de demi-tour. On prend la pomme par le cul, comme on dit, hein, par le dessous, et on va tourner. Et si ça vient tout seul, bah, la pomme, elle est récoltable.
Si elle résiste, on la laisse tranquille.
Si elle résiste, on la laisse tranquille. Alors, d'une manière générale, vous connaissez peut-être quand même bien la variété ou les variétés que vous avez. Il y a une évolution, un échelonnement des maturités entre des pommes qui peuvent être déjà terminées. Par exemple, vous avez une pomme comme Delbar Estival, par exemple. Dans le nom Estival, vous avez l'été. On est déjà en fin pour cette pomme-là. Bon, il y en a d'autres, par exemple, comme la Granny Smith, qui sont très, très tardives et qui vont être récoltées, elles, vers la fin octobre seulement. Oui. Sur la poire, comment fait-on, mon cher François? Parce qu'il m'avait bien fait le bon geste de récolter la pomme.
Bah écoutez, je dirais pareil, mais je ne suis pas un spécialiste.
Eh ben non. Sur la poire, on a un pédoncule qui donc s'articule sur la branche. Et là, vous allez poser votre doigt sur le pédoncule, prendre la poire et la soulever. Vous faites un mouvement vers le haut, comme ça.
D'accord.
De manière à casser, entre
alors,
guillemets,
là,
l'articulation.
Là, c'est pas rotatif. Là, il faut vraiment aller vers le haut.
Là, on fait un mouvement de levier. Et ce mouvement de levier, bah, c'est comme pour la pomme, si ça vient, bah tant mieux. Si ça vient pas, on attend.
Oui, Jérémy Soulimon, on regarde ça et écoute ça avec beaucoup d'attention.
Alors quand je parlais, pardon oui, François, quand je parlais de la maturité physiologique, oui. ça veut dire que les pommes et les poires que vous récoltez maintenant, si elles se détachent de l'arbre, elles sont pas pour autant consommables tout de suite.
D'accord.
Vous en avez pas mal qu'il faut mettre en conservation pendant quelques semaines, voire même certaines, les plus tardives vont se garder le plus longtemps. Ça, il faut le savoir aussi quand vous choisissez vos D'accord. variétés. Plus elles sont précoces, plus elles doivent être consommées immédiatement.
Où est-ce qu'on peut conserver les pommes et les poires après les avoir cueillies ?
Alors, déjà, il faut savoir que l'on ne conserve que les fruits en parfait état.
Donc, il y a un tri qui se fait.
Exactement.
Après
vous
la
triez déjà votre récolte. Donc, ce qui est abîmé, ce qui est un peu, il y a des taches de pourriture, il y a des piquures d'insectes.
Tout ça, on met de côté.
Bah oui, vous en faites des compotes tout de suite.
Oui. Hein,
voilà, c'est très très bien. Alors, après, dans la récolte de ces fruits de conservation, l'important aussi, c'est de ne pas les choquer. Faut pas leur faire de blessures.
Donc, on est délicat.
Voilà, on est délicat et on va les... Bah d'ailleurs, regardez, par exemple, quand vous allez chez le primeur, souvent, les fruits sont posés à l'intérieur...
D'un petit papier.
Voilà, exactement. Et c'est pas fait pour faire joli, c'est pour qu'ils se conservent bien. Alors donc, vous allez les mettre dans un local qui soit frais, sombre, aéré, bien sûr, à l'abri du gel. Alors, une cave de bonne qualité, ça peut faire l'affaire. Faut pas que l'hygrométrie soit au-dessus de 65%, sinon vous avez des risques d'apparition de pourriture. Un garage, un grenier, dont la température hivernale sera entre 5 et 10 degrés, ça c'est très très bien. Donc vous posez vos fruits sur des clayettes, vous allez en trouver dans des jardineries, hein, donc ce sont des éléments à claire-voie, parce qu'il faut que l'aération se fasse tout autour de fruits. Vous vérifiez qu'ils ne se touchent pas, et puis vous ne mettez pas de lumière, parce que cette lumière active la maturité, tout simplement.
Combien de temps peut-on conserver des pommes et des poires, Patrick ?
Bah, ça dépend comment vous les conservez, mais parfois très 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 longtemps. Par exemple, on va prendre une pomme courante comme Reine des Rainettes. Vous allez la récolter en ce moment jusqu'au 8-10 octobre. C'est la bonne période de récolte. Elle va pouvoir se garder au moins jusqu'à la fin novembre.
Ah oui, d'accord.
Bon, quand on parlait de la Granny Smith, ou par exemple si vous avez des poires de type doyenné du comice, par exemple, ce sont des poires qui peuvent se garder quasiment tout l'hiver jusqu'au mois de janvier, mais quand les conditions sont bonnes. En revanche, il faut bien regarder régulièrement l'état de vos fruits en conservation, et encore une fois, éliminer systématiquement ceux qui semblent ne pas être tout à fait en forme ou qui ont des taches pour pas qu'ils contaminent les autres.
Pour terminer, Patrick, le raisin, comment alors, le récolter, tiens ?
Oui, alors le raisin, en ce moment, par exemple, les chasses là, elles sont un petit peu terminées, mais tous les raisins, style muscat ou Italia, par exemple, on peut les récolter vraiment très très bien en ce moment. L'idéal, c'est de les couper avec un morceau du sarment, c'est-à-dire d'avoir vraiment un petit bout de bois avec votre grappe de raisin, de manière à ce que ça alimente légèrement la grappe. Vous pouvez les conserver une huitaine de jours dans le bac de légumes de votre frigo, ou encore, si vous avez un fruitier, donc cette cave bien aérée, ça va très très bien aussi.
Patrick, on va revenir dans un instant, on va retrouver notre dossier de ce samedi matin, on va parler des cultures associées, des plantes compagnes, mais on retrouvera aussi Patricia, qui a une question justement sur les tomates, parce qu'elle a des tomates vertes qui sont encore sur pied, et elle aimerait avoir quelques petits conseils, Patrick.
Mais attendez, est-ce que vous me posiez la question ?
Eh bien voilà, écoutez, c'est Patricia, hein. Soyons galants jusqu'au bout. On revient dans un instant, juste après la météo de Jérémy.
RMC, 6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Un très bon week-end avec RMC. Merci d'être là, au cœur de ce rendez-vous jardin. Chaque samedi, 6h-7h avec Patrick Mulan. Dans un instant, nous allons évoquer les plantes compagnes. Mais avant, on accueille avec plaisir Patricia qui est avec nous au 32-16. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Bonjour Patricia, bienvenue avec nous.
On vous écoute.
Eh bien voilà, il me reste encore beaucoup de pieds de tomates qui n'ont pas encore rougi. Et je sais que par la suite, si elles ne rougissent pas, je pourrais me faire de la confiture de tomates vertes. Mais je voudrais quand même savoir comment je pourrais faire conserver et faire rougir mes tomates pour essayer d'en profiter un peu.
Alors c'est tout à fait possible parce que en fait la tomate est un fruit qu'on appelle climactérique. Alors ça veut dire quoi ce truc-là ? Ça veut dire que elle est capable de mûrir une fois qu'elle est cueillie. Pour cela, il faut qu'elle soit en présence d'éthylène. Alors, naturellement, la tomate, comme tous ses fruits climactériques, sécrète de l'éthylène. Alors, c'est toute une combinaison chimique qui passe par différents composants avant de devenir de l'éthylène. Mais il y a un truc tout bête à faire à la maison, c'est que vous avez deux fruits communs qui, eux, en sécrètent beaucoup. C'est les pommes et les bananes. Et donc, il suffit de mettre vos tomates vertes dans un compotier, enfin, ou dans un plat, ce que vous voulez, avec pommes et bananes, pour généralement favoriser le mûrissement du fruit. Alors, ça dépend effectivement à quel stade votre tomate est quand même, hein, parce que les toutes petites, les plus petits fruits qui sont formés récemment, ceux-là, ils auront du mal. Mais les fruits qui sont déjà bien gros et qui ne sont pas encore colorés.
Si on a une tomate de, on va dire, de taille normale, mais qui est verte.
Voilà.
Vous l'accueillez.
Bah, il faudrait même en ce moment l'accueillir, parce que vous verrez tout à l'heure avec la météo du jardinier, et puis même Jérémy vient de nous le dire, les matinées commencent à être très très fraîches. Donc le blocage de la végétation est de fait. En plus, les jours raccourcissent.
Donc moins de soleil.
Voilà, on va pas avoir beaucoup beaucoup de soleil, parce qu'on est quand même sur une zone un petit peu pluvieuse en ce moment. Donc là, les conditions pour la maturité des tomates n'est pas très bonne.
Et Patricia, vous êtes où? Vous habitez où, tiens?
J'habite à côté de Troyes, dans l'Aube.
Ah oui.
Oui, donc ouais. Là aussi, vous risquez d'avoir plus de fraîcheur. Donc faites ça. Alors, il y a des gens aussi qui font la chose suivante. Ils les emballent, les tomates vertes, dans du papier journal. Et puis, ils les laissent dans une pièce normalement chauffée. Donc, parce qu'en fait, il ne faut pas que du tout la plante ait froid. Enfin, la plante, le fruit ait froid, ni soit trop à l'humidité. Mais si vous faites ça, je pense que ça devrait donner des résultats corrects.
Et après, le goût est là. Enfin, on arrive à avoir des tomates de qualité comme si elles avaient mûri au soleil ou pas?
Oh, ben non, faut pas exagérer, mais vous aurez des tomates qui ont un goût normal parce qu'elles sont déjà quand même bien chargées. Mmh. La coloration, qui est le signe de maturité, c'est pas ça qui fait à 100% la qualité du fruit. Il y a tout ce qui s'est produit avant. Alors, un dernier conseil, pour l'histoire de mes fruits en compagnon, là on va parler aussi des légumes en compagnon, bien là vous coupez vos pommes en deux. Enfin, pas toutes les pommes, mais au moins une pomme autour des tomates, parce que le fait de les couper en deux, vous allez voir très rapidement, il va y avoir des tanins qui vont se former, donc elles vont devenir toutes marron, mais là, elles auront sécrété de l'éthylène. Et donc,
plus que si elles ne sont pas coupées.
Que si elles ne sont pas coupées, exactement.
Bon, bah Patricia, vous avez des petites expériences à faire alors.
Eh bien, merci pour le conseil.
Tenez-nous au courant, tiens. Quand vous faites votre salade de tomates, appelez-nous, hein, quand même.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous laisserai un message pour, par la suite, pour savoir comment ça s'est passé.
D'accord. Merci beaucoup, Patricia.
Merci, bonne journée. Bon week-end, au revoir.
Et ça peut prendre combien de temps, Patrick, là, le mûrissement de la tomate?
Bah, il faut que ça soit rapide, parce que sinon, de toute façon, une fois qu'elle est détachée du pied de l'arbre, de la plante, la tomate, elle peut pas rester à l'air libre plus de une huitaine de jours. Donc, on va dire qu'en une semaine, normalement, il faut qu'elle mûrisse, devrait se faire.
Très bien. Allez, on va maintenant évoquer les plantes qui s'associent bien ensemble, qui parfois même se protègent, se stimulent ou se détestent, principalement au potager, Patrick.
Oui, alors ça, on appelle ça le compagnonnage. Et ce que je voulais aussi voir avec vous aujourd'hui, c'était ce qu'on appelle les cultures associées. Parce qu'on a des jardins qui rétrécissent de plus en plus, ou voire on cultive sur balcon. Donc comment on peut mélanger les plantes dans le même espace pour avoir à la fois une récolte maximale, mais aussi une récolte échelonnée?
Les cultures associées sont-elles des techniques nouvelles, tiens, Patrick?
Alors, vraiment pas. Il y a une chose qu'il faut évoquer, parce que je crois que je l'ai, en presque 19 ans d'émission, je crois qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est ce qu'on appelle le mille-pas. Le mille-pas, ou la technique des trois sœurs. C'est quelque chose que l'on a vu dans les civilisations amérindiennes très anciennes, et qui consiste sur une même parcelle, vous associez courge, maïs et haricots grimpants. Alors vous allez vous dire, à quoi ça sert tout ça? Eh bien écoutez, vous avez déjà le maïs, qui est le premier que l'on plante, et qui va servir de tuteur, en fait, aux haricots, parce que c'est grand, et le maïs.
Oui.
Le haricot, lui, est une plante de la famille qu'on appelait légumineuse dans le temps, qu'on appelle aujourd'hui les fabacées, et qui a des nodosités racinaires dans lesquelles il y a des bactéries qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Donc le haricot enrichit le sol, permet aux autres de se nourrir. Et puis, alors donc le haricot, lui, va grimper autour de la tige de maïs. Il n'y a pas besoin de faire de tuteur. Mmh. Et puis les courgelles, elles sont très très vigoureuses. Vous savez, c'est des plantes qui s'étalent sur le sol, font des grosses feuilles, etc. Donc elles vont pomper un maximum de lumière, ce qui gêne la croissance des herbes indésirables, puisqu'elles font une sorte de paillis, si vous voulez, naturel. Et puis, ce paillis naturel retient bien l'humidité dans le sol. Quant aux tiges, qui sont quand même assez désagréables sur les courges, c'est pas du piracanta, mais c'est quand même désagréable, et bien ça protège quand même, éventuellement, et surtout dans ces pays... disons des grandes plaines de l'Amérique, eh bien, les herbivores sauvages qui venaient manger les légumes. Donc on avait une sorte d'équilibre qui se continue jusqu'à l'équilibre diététique, bonjour Christian Recchia, puisque les trois sœurs, quand vous associez maïs, courge et haricots, vous avez un régime alimentaire déjà bien équilibré.
C'est top. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple tout simple de culture associée qu'on pourrait tous faire dans le jardin ?
Oh oui, écoutez, nous on faisait ça depuis très très longtemps. Dès que j'étais à l'école d'horticulture, on nous apprenait à mélanger, au moment du semis, les carottes et les radis. Parce que les carottes, il leur faut à peu près 15 jours, enfin entre 10 et 15 jours pour lever, alors que les radis, eux, lèvent en 3 à 5 jours. Et puis, vous allez obtenir des radis comestibles en 4 semaines, 5 semaines maximum, alors que les carottes, il leur faut, on va dire, allez, 3 à 4 mois, voire parfois un petit peu plus. Donc, vous allez avoir deux récoltes successives sur la même parcelle, et si vous avez bien mélangé vos graines, le simple fait de récolter les radis, vous allez faire ce qu'on appelle un éclaircissage, qui va permettre aux carottes d'avoir suffisamment de place, quand vous aurez libéré les radis, pour pouvoir se développer correctement. Ça, c'est simple, et c'est vraiment sympa.
Est-ce que les plantes sont réellement capables d'entrer en relation les unes avec les autres ?
Alors aujourd'hui, on le sait que oui, parce que lorsque vous êtes dans un écosystème, on sait que les plantes et les micro-organismes, il faut bien insister là-dessus, entretiennent des relations qui sont généralement des informations d'origine chimique ou même des symbioses. C'est-à-dire que quand on parle des mycorhizes, c'est champignons qui s'associent de façon symbiotique avec les racines, ce qui permet aux plantes de mieux résister à la sécheresse, notamment ce qui permet aux plantes de mieux absorber les éléments du sol, eh bien, ce sont vraiment des interactions importantes. Dans le jardin, le fait de mélanger les cultures, de créer un maximum de biodiversité, eh bien, ça va aussi améliorer la qualité du milieu, l'équilibrer, et même permettre une meilleure résistance aux bioagresseurs, c'est-à-dire donc aux ennemis et aux maladies. D'ailleurs, je voudrais dire à ce sujet-là, il y a un livre qui vient de sortir chez Ulmer, qui est un livre amusant, parce qu'il a été écrit par une bénédictine, une sœur bénédictine allemande qui depuis 50 ans cultive dans son abbaye des légumes sur une petite surface et en autarcie. Et là, on vous explique, mais alors avec des schémas très 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 bien faits, tout simples, comment justement associer différents légumes ensemble. Et là, on est vraiment sur une idée à la fois de productivité, mais également d'équilibre. Ça s'appelle les cultures associées au potager, c'est chez Ulmer, et la sœur s'appelle Christa Wenrich.
Christa Wenrich.
Oui.
Eh bien, dites-moi. Est-ce que le compagnonnage permet aussi de perturber, par exemple, les insectes ravageurs, Patrick ?
Oh, tout à fait.
On peut se dire, voilà, c'est un intérêt pour le végétal, mais aussi pour certains nuisibles ?
Oui, parce que c'est certainement le but premier, d'ailleurs, du compagnonnage. Prenons un truc tout bête. Le poireau, qui a deux ennemis très, très embêtants aujourd'hui, qui est la teigne et la noctuelle, qui font pratiquement la même chose, à savoir que les larves vont complètement creuser le fût du poireau, le rendant inconsommable. Si vous mettez autour du poireau des plantes qui ont une odeur extrêmement différente, hein, le poireau ça a une odeur aliacée, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas mettre des oignons ou de l'ail, mais si vous mettez, mettons des tomates qui ont une odeur forte, des œillets d'Inde par exemple qui ont une odeur forte, voire des géraniums, ou tout simplement aussi, pourquoi pas... je me le rappelle plus ce que je voulais dire. Donc, on peut mettre soit des tomates, de la menthe, du basilic, vous voyez, des choses comme ça qui sont très fortes. Mais là, même des carottes. Vous allez perturber totalement l'aspect olfactif qui est l'élément attractif pour l'insecte. Lui, il cherche l'odeur du poireau.
Oui, mais s'il a plein d'odeurs parasites, il est perdu.
Voilà, si ça sent la tomate, ça sent le géranium, si ça sent la carotte, il n'est plus tellement chez lui. Alors, je ne dis pas qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas passer au travers.
Mais ça va réduire la population.
Énormément, ouais. Énormément.
À l'inverse, est-ce que le compagnonnage permet d'attirer des auxiliaires, tiens, par exemple?
Alors oui, il y a certaines plantes qui attirent les auxiliaires, par exemple, ou même indirectement. Si vous mettez des capucines dans votre potager, vous allez assurément avoir plein de pucerons noirs qui vont arriver. Qui dit pucerons dit coccinelles, et les coccinelles, elles mangent aussi bien les pucerons noirs que les pucerons verts. Alors, sur les pucerons noirs de la capucine, vous allez protéger les fèves et les haricots. Vous protégerez pas les rosiers directement parce que ce sont des pucerons verts. Mais les coccinelles, elles feront le boulot. Donc ça, c'est intéressant. Alors, le fait aussi d'associer les légumes avec des fleurs, ça permet d'avoir ces odeurs différentes et ça permet aussi d'avoir des hôtes secondaires dans le développement de certains insectes. Parce que beaucoup de plantes, alors souvent, sont plutôt des plantes sauvages qu'on considère aussi parfois comme des mauvaises herbes. Par exemple, des petites euphorbes, des choses comme ça, qui servent d'hôtes secondaires. Alors, c'est assez complexe parce que chaque insecte qui serait un peu l'associé de nos cultures doit être associé lui aussi avec des plantes qu'il préfère. Donc il faut bien étudier la biologie de tout ce petit monde-là. Lorsqu'on veut faire un potager entièrement au naturel, c'est possible, mais ça demande quand même à la fois des connaissances, du temps, de l'observation, et c'est d'autant plus aussi passionnant, il faut bien le dire.
Patrick, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois exemples de compagnonnage positif avec des plantes qu'on pourrait associer?
Alors on disait par exemple que les tomates aiment les carottes, donc ça va bien ensemble. Oui. C'est deux autres qui sont vraiment différents.
L'œillet d'Inde et la tomate, par exemple, aussi.
Alors, l'œillet d'Inde, il a un avantage, ou du moins, on prétend qu'il a cet avantage-là, c'est qu'il est répulsif pour les nématodes. Vous savez que l'œillet d'Inde, quand vous le frottez, ça a vraiment une odeur particulière, et les nématodes, qui sont des vers microscopiques, dont certains sont pathogènes, hein, qui mangent vraiment les racines de nos plantes, eh bien, ils sont gênés par la présence de l'œillet d'Inde. Quand vous mettez, par exemple, des choux de Bruxelles avec des soucis, ou des choux classiques avec de la menthe, vous allez éloigner la pyrite du chou. Vous savez, ce petit papillon blanc qui pond sur les choux et dont les larves font des gros trous dans les feuilles, voire parfois même dans les pommes. Quand vous allez associer le navet avec le fenouil, vous allez généralement protéger à la fois le navet contre l'altise. L'altise, c'est un tout petit insecte noir qui fait aussi plein de petits trous sur les feuilles et qui réduit vraiment la végétation. Et en même temps, vous allez protéger le navet contre la mouche. Parce que le fenouil, lui, il a quand même cette odeur anisée qui est perturbante. On peut aussi mettre le poivron avec le géranium qui sent la rose. Alors lui, le géranium rosa, c'est un géranium quand même assez frileux. Mmh. Mais vous pouvez, pourquoi pas, aussi mettre des poivrons au milieu de vos rosiers, de façon à attirer plutôt les pucerons sur le rosier qui résiste mieux que le poivron. Mmh. Voilà, il y a plein de choses comme ça.
Tiens, on a Abdel au 3216 qui est non pas au 3216 mais sur Direct Studio, qui nous dit: j'ai un problème, comment se débarrasser des altises justement, car elles me dévorent tous mes jeunes radis, mes choux. Eh bien, c'est donc le fenouil qu'il faut mettre.
Alors le fenouil, ça va très très bien. Vous pouvez aussi mettre de la menthe, vous pouvez mettre toutes ces plantes qui ont des odeurs qui sont très puissantes. Et puis sur les altises, il y a un truc aussi tout bête, hein, c'est d'arroser abondamment. Ça aide quand même vraiment à éliminer un petit peu les pontes de ce ravageur.
Il est 7h moins le quart sur RMC, c'est le jardin. On revient dans un instant. Manuel sera avec nous au 32-16. Manuel est à Lyon. Il a un problème avec un pied de vigne. Il aimerait avoir vos conseils. Juste après la météo du jardinier, est-ce qu'on rentre vraiment dans l'automne? Tiens, on fera le point avec Patrick. Et puis, vos coups de cœur, Patrick, pour terminer. Merci d'être là. 32-16 pour nous joindre. L'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, le jardin. La météo du jardinier dans un instant. Patrick a scruté les cartes de Météo France, on fera un point dans une minute, mais auparavant, Manuel nous attend au 32-16. Bonjour Manuel.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Manuel.
Bonjour, voilà, j'ai un petit souci avec un pied de vigne. Bon, le pied doit avoir une 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Et cet été, là, j'ai remarqué qu'il y avait des grosses boules sur le sol cèpe, là. Et j'ai dit, c'est bizarre, ça. J'ai essayé de regarder ce que c'était. Alors, c'est un peu tendre par rapport au pied de vigne qui est dur, quoi. Alors, j'ai envoyé des photos. Je ne sais pas si vous avez vu.
J'ai vu les photos. Franchement, je trouve ça très étrange. J'ai même appelé un vigneron de ma famille pour lui poser la question. Ah. Il m'a dit que la seule fois qu'il avait vu quelque chose comme ça, donc ça ressemble vraiment à des boursouflures, hein, il faut bien dire, c'était après une période de très très forte gelée. Et ça c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu de très forte gelée depuis un certain temps, donc cette explication-là ne tient pas. Donc vous dites que le bois, à ces endroits de boursouflure, est plus tendre, semble plus souple.
C'est ça. Tout à fait. Avec mon oncle, par exemple, j'arrive à faire une marque dessus, quoi.
Et est-ce que vous avez pensé à ouvrir ça ?
Non.
Bon, il faudrait au moins sur une de ces boursouflures-là prendre un greffoir, enfin ou quelque chose qui coupe très très bien, et puis l'ouvrir en deux pour voir deux choses. Un, est-ce que les tissus à l'intérieur de ces boursouflures sont vivants ? Ou est-ce que, par exemple, ça ressemblerait à des fibres ou à des choses comme ça, ce qui voudrait dire que vous avez une attaque de soit un champignon, soit une bactérie sur le bois, et là, malheureusement, votre cep serait condamné.
Ouais.
Bon, si ce n'est pas le cas, si les tissus sont vivants, c'est la réaction de la plante à quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça peut être des piqûres de certains insectes, notamment des insectes du bois. C'est pas toujours très sympa parce que s'ils piquent, ça veut dire qu'ils essayent de pondre. Et quand ils pondent, généralement, les larves, elles viennent creuser à l'intérieur du bois. Et pareil, on peut dire qu'à un moment donné.
J'ai un problème avec un pommier, ça. Ouais,
voilà, avec des cossus, des euseurs, des scolites, des choses comme ça. Donc, ça peut être gênant. Et la dernière chose, donc, si vous ouvrez, il pourrait. Alors, je mets plein de guillemets, y avoir des larves à l'intérieur.
Oui.
Donc ça voudrait dire aussi qu'il faut bien curer, curoter, comme on dit, toutes ces boursouflures, les éliminer avec la serpette, et puis après, appliquer un mastic pour cicatriser. Mais vraiment, c'est vrai que c'est un phénomène, un symptôme qui est peu courant, très très peu courant.
Manuel, merci pour votre appel. Avant de retrouver les coups de cœur de Patrick de ce samedi, eh bien, c'est la météo du jardinier. Alors, Patrick,
qu'est-ce que ça donne
cette semaine? Je vois beaucoup de gris sur Paris.
Voilà,
c'est un peu inquiétant,
même,
là.
Même de la pluie, hein, puisqu'on va dire qu'à partir de demain, on devrait se réveiller vraiment sous la pluie. Il y aura un rafraîchissement assez fort. On annonce un petit 1 degré sous abri à Bourg-Saint-Maurice. Alors c'est vrai que c'est pas l'endroit le plus chaud de la France, mais on aura une moyenne de 8 degrés demain matin au réveil, avec une situation qui sera assez stationnaire lundi, pareil, avec des 12, 15 degrés, 10, 12 dans la journée, selon les endroits. Donc c'est pas le moment de jardiner avant mardi, parce que à mardi on va avoir effectivement des brouillards pratiquement partout sauf en PACA, avec toujours des minimales basses. On va avoir 10-12 degrés en minimale, et puis une journée cette fois qui sera sèche avec une bonne augmentation des maximales, puisque la moyenne sera autour de 17-18 degrés. Il fera pas bien clair, il y aura pas beaucoup de soleil, mais ça sera le moment, si on veut, de nettoyer le jardin, de tailler les haies, de terminer la dernière tombe du gazon, puisque en fait on va continuer à être dans ces conditions automnales, avec jeudi aussi, vendredi aussi, de la pluie pratiquement sur les deux tiers du pays. Il n'y a que votre région préférée, mon cher François, le bord de la Méditerranée, qui sera épargnée par les pluies.
Donc, comme souvent d'ailleurs.
Mardi, mercredi, ce sont les deux journées de la semaine où vous pourrez jardiner correctement.
Ah.
Les autres, généralement, vous vous reposez. Alors, il n'y a rien de bien urgent, sauf ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire donc de récolter, parce que quand il va faire très humide, les plantes, enfin les fruits qui arrivent à maturité peuvent s'abîmer très rapidement si vous ne les récoltez pas.
D'accord. Voilà pour la météo du jardinier. Et pour terminer ce week-end des experts, Patrick, vos coups de cœur de ce samedi matin.
Il y a des fêtes des plantes qui reviennent, heureusement. Vous savez qu'au printemps, on n'a rien eu. Alors, la fête de Saint-Jean-de-Bourgard, c'est ce week-end, c'est en Essonne. Ça a commencé hier, ça dure jusqu'à dimanche soir. Près de 200 stands. Vous avez vraiment une palette de pépiniéristes et de producteurs, même pas que français, qui vous attendent. Et il y a vraiment très, très belles choses. Et notamment aussi à visiter le potager à Saint-Jean-de-Bourgard, qui est remarquable. Toujours en région parisienne, vous avez Jardin en Seine qui est à Suresnes, sur les terrasses de Fécheret. D'habitude, pareil, il est au printemps. Et là, il y a des paysagistes qui viennent vous présenter des idées d'aménagement, notamment pour les terrasses. Donc, si vous êtes un jardinier urbain, c'est extrêmement intéressant. Ça s'appelle Jardin en Seine. Et puis, au domaine de la Bourbansais, dans l'Ille-et-Vilaine, à Plouguenec, il y a Couleur d'automne. C'est aussi une très, très belle fête des plantes. Et puis, je terminerai par un livre qui est absolument remarquable, qui s'appelle Jardin naturaliste, les meilleures plantes vivaces. Il est remarquable parce que rien que son auteur est déjà remarquable, c'est Pietu Dolph. Pietu Dolph, c'est certainement un des meilleurs paysagistes néerlandais du XXe siècle et du XXIe siècle d'ailleurs, puisqu'il est toujours en vie, heureusement pour lui, et qui a réussi à faire comprendre comment marier les plantes vivaces dans un esprit naturel. Et vous avez des photos là-dedans qui vous donnent vraiment, vraiment, vraiment envie de faire un jardin comme ça.
Ça inspire.
Donc ça s'appelle Jardin naturaliste de Pietu Dolph chez Ulmer. Ça coûte 29,90. C'est un beau livre, assez petit, mais vraiment très, très intéressant.
Patrick, c'est terminé. On sera là samedi prochain, 6h-7h sur RMC. Vous le savez, Patrick Mulan, pour notre rendez-vous jardin.
Ça sera un plaisir. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière, ma petite perle aussi, comme d'habitude. Et je fais un grand coucou à monsieur
Christian Poussin. Et un autre grand coucou. Faut dire quoi. On a la distanciation, là.
Hein. Ah oui, alors là, c'est parfait. Même si vous vous éternuez dessus, on ne risque rien. mon cher Christian, oui, on va se retrouver dans un instant pour une heure dédiée à la maison. Oui. Comment être bien indemnisé en cas de dégâts, tempêtes et notamment de catastrophes naturelles.
Eh oui, c'est arrivé il y a peu et ça va malheureusement recommencer.
Oui.
Il y a des trompes d'eau. Moi, sur Paris depuis deux jours, il y a eu des moments.
Des orages incroyables.
10 minutes, tout ça pleut et tombe une quantité d'eau. Alors, deux sujets, justement. On parlera comment écarter l'eau de la maison pour éviter, justement, notamment ensuite les remontées capillaires. Et puis, surtout, le sujet principal, on va parler d'assurance. À partir de quand les dégâts sont-ils considérés comme catastrophe naturelle et si ça ne l'est pas, etc. Comment être bien assuré et surtout bien indemnisé.
32-16, l'appli RMC Direct Studio pour toutes vos questions, si vous voulez réagir, bien sûr. Christian Pessé, la maison, juste après la météo et les infos de 7h. À tout de suite.